chanteuse pour votre présence et pour ce si chaleureux et enthousiaste accueil à Monaco. Alors, je vais répéter, en effet, les mêmes termes, promettre, mentir, trahir. On a vraiment affaire ici à toutes les failles de l'engagement, à ses vices, à sa ruine même. Vous connaissez la parodie de la formule de Lacan, aimer, c'est donner ou c'est proposer quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous voyez bien qu'en commençant de cette façon-là, ça ne peut pas arriver où que ce soit. L'amour est d'une certaine manière ruiné de l'intérieur. Promettre se fait sur du sable, mentir et en meilleur des cas une stratégie de couverture du vide quand on n'aime plus et qu'on ne sait plus quoi dire. Et trahir, c'est presque retrouver une forme d'innocence à l'égard de l'amour. Mais d'un autre côté, un amour sans lien, sans engagement, qui pourrait y croire, l'amour est un sentiment qu'on promet dire « je t'aime, mais juste maintenant, je ne promets rien pour l'avenir ». Bien évidemment, ce ne serait pas l'amour. Le pour toujours fait partie de la langue amoureuse, comme disait Hippolyte dans le Phèdre. Songez que je vous parle une langue étrangère, ne m'en veuillez pas de vœux mal formulés, qu'Hippolyte sans vous n'aurait jamais formé. Il ne peut pas y avoir de langue amoureuse qui soit convaincante et qui puisse faire son effet si elle ne tourne pas, si elle n'est pas constamment centrée autour de ce pour toujours. Et pourtant, si la promesse et l'engagement font partie de la langue amoureuse, s'ils sont les meilleurs garants de la réalité du sentiment amoureux et peut-être même de sa sincérité, il reste que l'expérience, l'observation, la connaissance, l'analyse conceptuelle surtout, montrent qu'à cette promesse, il n'y a vraiment aucune raison de croire. Alors, on se retrouve dans un cas de figure qui est extrêmement apprécié des philosophes, qui est celle du savoir sans croire. Je sais que ce n'est pas vrai, que ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, je ne peux pas ne pas y croire. Il faut que j'y croie. Et sans cette croyance très profonde de celui qui promet, comme de celui qui écoute, et souvent les positions s'échangent, eh bien, il y a le sens même de l'amour. C'est une croyance qui est intrinsèquement décevante. Elle est nourrie d'illusions à l'égard de soi-même, très probablement. Elle illustre ce qu'on appelle en philosophie les dissonances de la certitude ou les dissonances de la croyance. Bien sûr, toutes ces analyses qui ont été éprouvées pour d'autres sentiments valent aussi pour l'amour. Mais pourquoi? Comment? Reprenons la question de Paul, pourquoi en est-il ainsi? Alors, pour essayer d'y répondre, je vous proposerai quelques réflexions. Je ne partirai pas de la déclaration ou de la promesse, mais de la complétude amoureuse, c'est-à-dire du moment où on est ensemble et on ne peut pas faire autre chose, parce que l'amour ne sait pas parler d'autre langue que promettre, et promettre pour toujours. Et pardonnez-moi de me faire encore à Platon, quand je me sens dans une ambiance amicale, c'est un peu comme du coq qui apparaissait dans tous ses films, il y a un Platon qui arrive. Alors Platon, dans le mythe d'Aristophane, à un moment nous présente ces grosses boules qui sont le même et l'autre, l'objet d'amour et le sujet d'amour, et qui se sont enfin réunies. Quand elles ont été réunies, quand elles étaient réunies à l'origine, dans la satisfaction intégrale de l'amour narcissique, parce qu'un amour totalement comblé est aussi un amour narcissique, que faisaient-elles ces grosses boules? Elles s'en prenaient aux dieux et contestaient la toute-puissance des dieux, manifestant ainsi de manière inévitable une extraordinaire brise. Les dieux les coupent en deux, les séparent et les obligent à consacrer leur vie à errer à la rencontre, à la recherche plutôt, de la moitié, dans l'espoir d'une improbable rencontre, d'une improbable retrouvaille. Les dieux peuvent être tranquilles parce que tous les êtres humains passent leur temps à chercher l'autre d'une manière ou d'une autre. Alors, cette blessure, cette séparation que les boules, l'Aristophane, ces êtres complets, cette monade porte en elle, sont-elles le signe de leur condition de mortalité? Sont-elles le signe du fait que chez les hommes, la génération est nécessaire, on ne s'engendre pas soi-même, il faut être deux pour engendrer un autre? Ou bien sont-elles la marque, est-elle la marque du manque du désir, de la béance du désir? Peu importe la réponse qu'on lui apporte. L'essentiel, c'est que la recherche est inévitable. Et au moment de la rencontre ou de la retrouvaille, qu'elle soit intermittente, qu'elle soit précaire, qu'elle soit illusoire, la projection vers l'infini, la permanence, est elle aussi inévitable. Je disais illusoire et éphémère. Pourquoi ? Parce qu'on engage le temps, on s'engage soi-même et on engage l'autre. Trois choses sur lesquelles on a fort peu de prise. Que peut avoir une promesse dans ces conditions ? Le temps est corrosif. L'autre est d'une altérité irréductible et soi-même. Est-on capable de se faire une seule promesse à l'égard de soi-même qu'on est sûr de tenir pour toujours ? Alors en faire par rapport à un lien et par rapport à un autre, quelle présomption ? Mais dans la rencontre amoureuse, et c'est ce sur quoi je voudrais vous parler à présent, tous les mots prononcés, les mêmes actes, les mêmes propos sont intrinsèquement sincères et mensongers. Et c'est cette alliance très particulière de véracité ou de raison de croire transmis à l'autre, parce que quand on dit je t'aime, on demande à l'autre d'y croire. Avant toute chose, ce n'est pas pour soi qu'on dit, c'est que pour l'autre on le croit. Comment véracité, sincérité et artifice sont toujours mêlés. Qu'il faille promettre, et promettre le mariage d'une cavalière de jugement, c'est l'arme première de la séduction du jugement. La promesse de s'engager immédiatement, à partir d'un seul regard, d'une seule rencontre, du son d'une voix, d'engager toute sa vie, de dégager tout son être. Aucun être humain ne peut résister à ce type de promesse, parce que d'une certaine façon, précisément, c'est le don intégral de l'autre, du temps et du monde. L'autre vous donne un monde et une histoire, et ça, c'est un monde que nul ne peut refuser. Mais dans la poésie, en particulier la poésie romantique, constamment explorer ce thème, cette précarité de l'amour, la sincérité profonde du serment amoureux et la possibilité de la tenir, a été constamment évoquée. Et d'ailleurs, il est frappant de voir combien chez les poètes, chez Victor Hugo, par exemple, à la fin de La tristesse d'Olympio, donc dans les premiers recueils de poésie, l'extrait des rayons et des ombres, les rayons et les ombres, les premiers poèmes de Victor Hugo, Hugo insiste sur ce caractère du serment amoureux en accusant en quelque sorte Dieu et la nature de nous avoir privés de la permanence. Ce n'est pas nous qui sommes incapables de la tenue de ce serment. C'est la nature qui est plus forte que nous. Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours, puis il nous les retire. Il souffle notre flamme. Il est à cet égard intéressant d'écouter les derniers vers de la maison du berger, du Vigny, un des plus beaux vers qui ait jamais été écrit dans la langue française, et qui entre en résonance avec ces vers de Victor Hugo, où Vigny considère, bien sûr, ce sont non seulement les hommes qui sont responsables, mais c'est la nature humaine, les intentions n'ont rien à voir, les qualités, les vertus, la véracité intérieure n'a rien à voir. C'est une sorte de décalage structurel des temps entre le temps des attentes, qui est un temps pour toujours, et le temps de ce que peuvent faire les humains, qui est un temps juste pour l'instant, avec ses traits ouverts. Tu vas rester, regarder cette terre ingrate, où les morts ont passé, à rêver, à fuyer aux branches incertaines, pleurant comme Diane au bord de ces fontaines, ton amour taciturne. Et toujours menacé. Et ce terme de taciturne, c'est la peine que je l'explique pour vers la famille. Donc, se promettre, quel sens pourrait-il avoir ? Mais que promet-on quand on promet ? Dans une profession de foi religieuse, au fond, ça n'a pas beaucoup de jeu, puisque ça n'a pas la même difficulté, puisque d'une certaine manière, pour qui à la fois, l'objet est infini, c'est le Dieu infini par définition. Mais lorsqu'on le promet soi-même, que promet-on ? Vous connaissez le fameux passage de Stendhal dans De l'amour où Stendhal évoque le phénomène de la cristallisation amoureuse. Au milieu de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la taille d'une mésange, sont garnis d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet est né à de nouvelles perfections. Ça, c'est le moment où l'amour naît, cette sorte d'extraordinaire processus quasi alchimique où ce qui est terne se retrouve infiniment brillant. Mais la décristallisation, c'est le moment où tout ce qui était infiniment brillant se retrouve plongé dans l'obscurité. Il éteint notre flamme, comme disait Hugo. Et à ce moment-là, que peut valoir la promesse ? Est-ce que le mensonge et la trahison ne sont pas une illusion ? Alors on pourrait dire, bien sûr, mais pas du tout. Vous ne voyez plus brillant ce rameau. Mais changez vos lunettes, changez vos yeux, changez votre façon de percevoir, cela dépend de vous. Essayez d'entretenir malgré tout la flamme de l'amour. L'objection est recevable, et j'y reviendrai à la fin. Mais à ce moment-là, approfondissons la question, que cherche-t-on quand on aime ? Et puis d'abord, qui aime-t-on ? Est-ce qu'on aime vraiment l'autre ? Ou est-ce qu'on aime un certain état de soi aimant l'autre ? Spinoza a été, après Platon, un des premiers à évoquer cette possibilité, disant que ce qui cause l'amour, ce qui l'oriente, ce n'est pas tant l'objet, c'est l'extraordinaire capacité d'affirmation du conatus, d'affirmation de la force vitale, pour lequel il est besoin d'une reproduction, d'un renouvellement incessant des objets, dans la même individualité ou dans des individualités différentes, face à ce besoin du moi qui fera varier les objets selon ses intérêts, que peut signifier une promesse. Schopenhauer a repris cette idée, et c'est sans doute un des premiers philosophes qui a attaché cette idée au caractère infiniment et profondément insatisfait de la sexualité. Schopenhauer considérait que ce dont l'amour tire sa réalité première, sa raison d'être, c'est la volonté, c'est-à-dire ce fond fondamental, cette tendance implacable et aveugle à perpétuer la vie. Ce qui se présente à l'individu comme la sophistication des raisonnements amoureux, de la langue amoureuse, la focalisation sur un être particulier doté de sa qualité singulière, tout ce que l'amour occidental et raffiné, notre tradition qui nous a éduqués à l'éprouver et à le reconnaître, appelle l'amour, et bien derrière la délicatesse des mots et des sentiments qu'il y a, il y a une force désespérée d'affirmation de la volonté. Et c'est précisément qui renouvellera constamment ces objets. C'est précisément pour s'émanciper de cette force fondamentale que Schopenhauer a aussi théoriser ou développer cette force de la pitié, de l'amour complètement désintéressé qui, d'une certaine manière, tente un effort désespéré en abolissant l'autre, précisément, pour s'affranchir de l'affirmation de la volonté. Alors, dans ce parcours philosophique, il y a un dernier auteur que je citerai, c'est Freud, chez qui cette question qui a été posée par Spinoza, reprise par Schopenhauer, reçoit sa forme la plus dramatique. Pour Freud, la réponse, en quelque sorte, n'est même plus objet de question. Lorsque les individus effectuent leur choix d'objet d'amour, ce qu'ils recherchent, c'est ce qui viendra combler, c'est l'individualité singulière qui viendra combler une structure érotique de demandes et d'attentes amoureuses qui forment l'ensemble des conditions préalables requises pour permettre au sujet de tomber amoureux. Et c'est cette structure érotique constamment répétée, constamment reprise dans le cours de la vie d'une personne, qui fait que lorsque le besoin d'amour n'est plus satisfait par l'objet qui est là et qui pour un temps a incarné cette structure érotique, eh bien, le besoin d'amour cherchera une autre personne, renouvellera, réitérera cette demande, mais et rencontrera l'autre personne avec les mêmes anticipations de la libido, parce que ceux qui aiment, c'est ce qu'on aime, l'objet d'amour, c'est essentiellement certaines structures de soi-même. Et là, la question devient différente de savoir si on aime l'amour ou si on s'aime soi-même. Et d'une certaine façon, ce que la formule de Freud est assez saisissante. Le caractère de l'ego est un précipité des investissements d'objets abandonnés. Nous ne sommes que ça, notre caractère le plus profond de nous. C'est le résidu de tous nos investissements d'objets abandonnés. Il contient, d'une certaine façon, l'histoire de tous nos choix amoureux passés. chez Sartre, cette analyse recevra encore une formule plus dramatique, puisque Sartre y imposera l'idée d'un secret que l'autre, nous cherchons désespérément l'autre, comme s'il détenait un secret sur nous-mêmes, avec la volonté, évidemment, à la fois de le saisir, de posséder ce secret, et de nous servir de l'autre comme une forme de révélation. Alors voilà peu de raisons d'espérer, et bien les motifs de penser que la promesse amoureuse est nécessairement factice. Il ne peut pas en être autrement, c'est sa nature même. Elle est à la fois profondément sincère, parce qu'elle engage tout le chemin, et sans réserve, mais elle est aussi profondément factice. On pourrait se dire, mais admettons qu'il y a des moments où la rencontre avec l'autre se fasse. Est-ce qu'on est véritablement sujet, victime, passif devant cette quête plus forte que soi et qui en quelque sorte subtilise déjà la perspective d'un autre à celui auquel on promet un amour pour toujours. La promesse se réitérera, mais l'autre ne sera pas nécessairement le même. Alors, je voudrais vous dire quelques mots d'un auteur qu'on cite assez peu sur ces questions, mais qui, au fond, bien que par ailleurs, parce qu'il n'y a pas la philosophie politique et l'ouvrage du même, peu d'affinité pour lui, me paraît avoir véritablement, parce qu'il a inventé la modernité amoureuse, avoir vu très juste. Rousseau, comme vous le savez, et sans doute celui qui, dans ces deux textes qui sont publiés à 2 ans d'intervalle, l'Émile et la Nouvelle Héloïse, a inventé l'amour moderne. Un amour qu'il a voulu totalement dégager de la galanterie, qui était et la séduction amoureuse, qui était la thématique et la forme d'expression amoureuse traduite par la littérature et par la vie de cour de ce monde-là. Mais également, il a voulu dégager l'amour de l'amour courtois. Et d'une certaine manière, faisant cela, Rousseau a inventé l'amour conjugal. Qu'est-ce que j'appelle l'amour conjugal ? Ce n'est pas nécessairement un amour fondé sur le mariage. C'est simplement un amour qui engage la vie entière. Un amour fondé sur la promesse de faire sa vie avec un autre. Et d'être deux dans lui. Ce n'est pas simplement un amour qui ne parle que d'amour. C'est un amour qui parle de l'existence, de soi, de l'autre, parfois de la famille et d'une construction à deux. Et Rousseau insistait sur le fait, dans ces deux textes, et surtout la Nouvelle Héloïse, qui est très paradoxale, puisque c'est un engagement amoureux, créateur de l'amour conjugal, qui est fondé sur un renoncement amoureux, puisque, comme vous savez, Julie renonce à son amour pour Saint-Preux lorsqu'elle épouse celui qui devient donc son mari. Mais Rousseau, avec cette idée qu'à partir de l'amour, et de la promesse d'amour, ce n'est pas simplement un sentiment et un objet impossible pour satisfaire un désir qu'il est structurellement inaccessible d'assouvir, qu'il est question. Lorsque Rousseau parle d'amour, c'est cette réussite de la vie, cette construction de la vie fondée sur l'amour qui est accessible à tous. Et d'une certaine façon, s'il y a un démocrate en matière de sentiments amoureux, c'est bien Rousseau. Rousseau qui a été le premier à dire cette complétude humaine, cette perfection-là, tous vous pouvez la connaître. Elle n'est pas réservée à l'amour courtois, c'est-à-dire aux élus de l'aristocratie. Elle n'est pas réservée non plus aux libertins. Elle est réservée à tous. Elle est la forme de perfection humaine à construire dans le temps, par la promesse, avec un pour toujours, toujours en danger, précisément, et toujours sauvé. Mais en même temps, Rousseau insiste sur le fait qu'à un moment, on se rencontre. À un moment, on promet à cet être et pas à un autre, à ce moment-là et pas à un autre moment. Et on détient fort imagé, d'ailleurs, Rousseau, dans les mines, dit « Attention, c'est le moment le plus dangereux de l'existence. C'est le plus dangereux de tous les pièges, celui où on se promet, on prend le mariage, par exemple, où on va épouser. Et le seul que la raison puisse éviter, le seul piège que la raison puisse éviter, nous est, et le seul moyen de l'éviter, c'est de se fier à ses sens. » Rousseau nous dit, fiez-vous à ce qu'il y a d'imperceptible dans ce sentiment amoureux qui vous convainc, qui est vrai. Et puis allez-y, promettez. Ça ne sera pas toujours une réussite, mais c'est la meilleure garantie que vous puissiez avoir que ce soit une réussite. L'amour a de meilleurs yeux que nous, et il voit les rapports que nous pouvons apercevoir. Et cette idée-là, d'où est sorti tout le romantisme, tout l'amour sur lequel la vie est construite, peut faire le bonheur de la vie, et que l'échec amoureux peut faire le malheur de la vie, véritablement, encore aujourd'hui, je crois, avant que nous changions de configuration, la caractéristique de l'amour moderne, peut-être même de l'amour contemporain. Alors, je voudrais, à partir de cela, vous donner quelques mots de conclusion. Car on peut évidemment mal tomber. On peut évidemment se retrouver dans une histoire où l'amour a changé tout simplement parce que soi-même, la personne qui promet a changé et l'objet auquel elle promet a également changé. Le désamour peut arriver. Il peut arriver aussi que l'expérience de la trahison ne soit plus possible, ne soit pas évitable. Et comment serait-il autrement ? Reprenons l'exemple de la cristallisation. Quand le branchage est dépourvu de tous ses cristaux, est-ce qu'on peut vraiment promettre l'amour lorsqu'il n'y a plus de ressources en soi pour le faire ? Et d'une certaine manière, l'amour est à la fois pris dans une fatalité de la fausseté et de l'hypocrisie et de la trahison, mais également dans une obligation de sincérité. Alors si j'ai aussi autant insisté sur le caractère inévitable de la trahison amoureuse et du mariage, trahison, risque de trahison et de l'amour, le risque de trahison, le risque de mensonge, ils sont inévitables. J'ai voulu cultiver une forme de pessimisme dans la lucidité de ce qu'est le sentiment, avec tous ses limites, ses difficultés, ses paradoxes. Maintenant, je voudrais, en quelques mots de conclusion, insister sur l'optimisme de l'espoir. Parce qu'il me semble, et sur ce point, étrangement, je terminerai sur une position de Soulis, il me semble précisément que c'est la seule chose qui puisse nous être offerte que de combattre pour la permanence du lien, dans ce qu'il porte d'obligation à l'égard de soi, à l'égard de l'autre, à l'égard des attentes légitimes et à l'égard également de ce qui fait sens. Puisqu'un lien qui se déploie dans la durée est aussi une œuvre de donation de sens et de donation de sens à l'existence. Alors, dans un livre que j'ai publié récemment, j'ai essayé d'analyser ce qu'il en était de ces normes internes aux sentiments et en particulier aux sentiments amoureux, avec ce qu'elles semblent permettre ou interdire, ces normes toujours jamais formalisées, mais qui exercent une véritable contrainte sur les personnes impliquées dans un lien. Alors cela suppose en effet beaucoup d'obligations, le travail constant de limitation de sa propre folie, de sa propre difficulté, la non-projection sur l'autre de ses faiblesses ou de ses manquements. C'est un travail de Sisyphe, dirait-on, comme disait Baudelaire, l'art est long et le temps est court. Et c'est un travail où sont constamment mêlés à rationalité et affirmation, rationalisme extrême et existentialisme. Il faut constamment affirmer, on est dans un effort désespéré de l'être humain qui fait que la rencontre initiale, c'est celle où on est précisément en position de dire pour toujours, se reproduise chaque jour. Il ne s'agit pas de dire tu m'as déjà dit hier. Mais c'est un bien différent, donc c'est un autre, je t'aime pour toujours, qui s'entend. Et ça, il est sûr que la volonté humaine peut arriver, enfin peut se donner pour tâche, en tout cas ce n'est pas une pourvue de sens pour ceux que cela intéresse, de créer cette œuvre dans la vie qui, encore une fois, pour prendre l'expression Rousseau, est sans doute celle la plus accessible, donc quelles que soient les conditions de culture, les conditions sociales, les conditions d'existence, il est possible d'arriver à la construction de ce lien à l'autre, enfin pour autant qu'un autre soit là, et qu'on soit capable de le voir, et qu'on soit capable de l'entendre. Mais vous rendez compte, percevez la nature du défi. C'est un défi sur la permanence de soi, c'est un défi sur la permanence de l'autre, et c'est un défi sur la permanence du temps, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre dans un réfrigérateur et de figer le sentiment, la passion, le désir. La grande tâche, le grand combat, est de maintenir vif, de ne pas figer l'histoire et surtout d'arriver à maintenir intact la surprise de l'autre, la rencontre de l'autre, son caractère imprévu en dépit de tout ce qu'on sait de lui, de tout ce qu'il sait de soi, maintenir une surprise irréductible, sans quoi, je crois, il n'y a pas de sentiment amoureux. C'est un grand combat. C'est ce que Harold Williams appelait une fortune morale. Et c'est une des choses qui vaut la peine de vivre.